BFM Business et Tech & Co présentent Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Voilà, il est 20h01 en ce mercredi 5 juin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Tech & Co, sur le plateau de BFM Business. Je suis très heureux de vous retrouver. Encore une fois, en ce mercredi, nous allons passer une partie de cette soirée ensemble jusqu'à 21h30. C'est Tech & Co, la quotidienne. Vos 90 minutes de tech quotidienne, votre dose de technologie. Eh bien, c'est maintenant à la radio, à la télé, en direct, bien sûr. Et puis après, les replays, les podcasts qui vous attendent. Alors, au sommaire ce soir de Tech & Co, eh bien, on va revenir sur la WWDC, le grand rendez-vous des développeurs d'Apple. On est à J-5, les amis, et ça commence à chauffer côté rumeurs. On va tout vous récapituler dans un instant avec nos débriefeurs. On va parler aussi d'un autre secteur impacté par l'intelligence artificielle, ce sont les chanteurs, les auteurs, les compositeurs, les interprètes. Voilà, l'IA est en train, là aussi, de passer par là, on va en parler. Et puis tiens, l'intelligence artificielle qui transforme deux grandes entreprises ce soir qu'on va découvrir, L'Oréal et Air France. Comment l'IA générative, notamment, arrive chez notre compagnie française? Je recevrai la responsable data et IA d'Air France tout à l'heure, aux alentours des 21h. Voilà le programme plutôt à l'échange, je trouve, de Tech & Co ce soir. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Le débrief de l'actu tech, mesdames, messieurs, avec ce soir du beau monde, encore une fois, Marjorie Paillon nous fait l'amitié d'être là.
Alors vraiment, c'est parce que c'est vous. Je savais qu'il y avait trois personnes très bien en plateau, je me suis dit, allez, je vais.
Allez, je ne peux pas refuser. Ça fait plaisir, Marjorie, de t'accueillir. Tu es journaliste, bien sûr, et spécialisée dans la tech. À tes côtés, c'est Yves Maître. Salut Yves.
Bonsoir.
Operating Partner Jol Capital, consultant et ancien PDG de HTC. Yves qui a eu une longue carrière dans plein de boîtes passionnantes. Tu as travaillé notamment chez Orange, on le dit, on le répète à chaque fois. Et évidemment, tu as toujours plein de petites histoires croustillantes à nous raconter. Il y en aura une tout à l'heure, tiens. Mais on garde le suspense.
Online ou offline?
Je sais pas, écoute. Alors après, ça c'est toi qui es responsable. Hein. Et Frédéric Simotel, salut Fred.
Bonsoir, salut à tous.
C'est sympa d'être là, Fred.
Oui.
Parce que je sais que normalement, tu aurait dû être dans les loges de Roland Garros en train de siroter un drink avec des personnes importantes. Et ben vous savez quoi,
regardez,
Fred Simotel a préféré être là ce soir dans Tech & Co avec nous pour commenter l'actu que de faire le beau à Roland Garros.
Il préfère siroter du numérique avec nous.
Voilà, ça, exactement. Voir des échanges.
Il va y avoir un beau jeu de balle.
Ouais. C'est ça le professionnalisme,
des
amis.
Des 40A, des 30A, ça va être mieux.
Le vrai professionnalisme, c'est ça.
ChatGPT, Gemini.
Tout ça, c'est tellement beau. Voilà. Qui va gagner en 5-7? On verra bien. Il y avait de beaux matchs ce soir, tiens, à Roland Garros.
Oui, mais le quart de finale, Zverev contre De Notaire.
Ah ouais, bon, enfin, non, reste là. Hein. N'y va pas tout de suite, quand même.
Chaque année, il y a un nouveau Roland Garros.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Le quart de finale est prochain.
Effectivement. Alors, dans l'actu, les rumeurs WWDC dans un instant, pas mal de choses à raconter, bien évidemment. L'appli Gemini de Google, vous savez qu'il y a un peu la réponse de Google à ChatGPT. On va y revenir parce que ça arrive en France, ça y est, enfin. Et puis de l'IA partout. Le Computex, on en parle depuis deux, trois jours maintenant, qui est ce grand salon à Taïwan, à Taipei plus précisément, mais à Taïwan, donc forcément, sur les puces, les composants informatiques. Évidemment, cette année, c'est l'intelligence artificielle qui est poussée au maximum. Yves connaît très bien ce salon. Il va nous raconter un peu comment ça se passe de l'intérieur et il nous dira aussi si c'est un bon cru, ce Computex édition 2024. On va parler d'Orange aussi, qui lance une offre de cybersécurité pour le grand public, si on a le temps. Enfin bref, il y a plein de sujets passionnants. Mais pour débuter, les amis, J-5, la WWDC. Alors, première information importante, elle sera à vivre sur BFM Business. Voilà, dès 20h. Tech & Co spécial, hein. Voilà, on casse le déroulé de cette émission et pendant une heure et demie, on va vous commenter cette keynote, sans doute en direct. Elle aura commencé à 19h, je crois, hein, Fred. Oui. Donc, on aura déjà une heure à digérer ensemble des annonces et puis après, en temps réel, toutes les nouveautés qui seront annoncées par Tim Cook et son équipe seront à suivre en direct sur BFM Business. Donc, notez-le, c'est le 10 juin, dès 20h. Tech & Co, la quotidienne. Mais d'ici là, les rumeurs, on en a plein. Hein. Ça n'arrête pas. La plus importante et peut-être aussi la plus, comment dirais-je, étonnante de la part d'Apple, c'est qu'Apple, qui n'aime pas les partenaires en général, là, visiblement, se dessine un partenariat avec OpenAI parce que, visiblement, dans iOS 18, on aurait du ChatGPT quasiment partout. C'est très intéressant de voir ça. Et évidemment, j'aimerais avoir votre avis. On commence par Marjorie, bien sûr.
Alors, c'est étonnant, oui et non, parce qu'en réalité, on sait que ça fait plus d'un an désormais que Apple et OpenAI sont en discussion pour essayer de.
Je disais étonnant, excuse-moi, je te coupe parce que c'est étonnant dans la posture intellectuelle d'Apple d'avoir des partenaires. On sait qu'ils aiment bien tout faire eux-mêmes. Et mais c'est vrai que tu as raison, ça fait un an qu'ils discutent avec OpenAI.
Ça fait un an qu'ils discutent.
Et ça veut dire aussi qu'ils sont à la bourre en fait et qu'ils sont pas prêts. Ils sont obligés d'avoir un partenaire.
C'est aussi un aveu. On l'a dit beaucoup sur ce plateau tout au long de la saison. C'est aussi un aveu de pas de faiblesse jamais de la part d'Apple, mais en tout cas dans certains retards sur le développement de leur propre outil d'intelligence artificielle générative et d'outils conversationnels.
Oui, ils sont pas prêts.
L'idée, c'est d'aller chercher finalement dans ChatGPT ce qui manque aujourd'hui à Siri cruellement, c'est-à-dire beaucoup plus de fluidité dans les interactions, notamment aussi des fluidités au niveau de la voix, essayer de trouver une logique qui permet d'aller plus vite de ce point de vue-là. Mais en l'occurrence, OpenAI n'est pas les seuls à discuter avec Apple, ou Apple n'est pas les seuls à avoir choisi OpenAI pour discuter. Tu sais qu'il y a aussi des discussions avec Google qui seront entamées pour incorporer Gemini dans une prochaine version. En gros, l'idée, c'est de dire on essaie de vous proposer le meilleur des solutions sur le marché à l'instant T en termes de robots conversationnels, en attendant de fourbir nos armes et de pouvoir sortir la nôtre. Et je crois que le projet s'appelle Ajax, si je n'ai pas de bêtises.
C'est la plateforme sur laquelle ils vont développer.
C'est le travail chez Apple. Après, ce qui va rester primordial dans la façon dont Apple, si je comprends bien les rumeurs pour lundi prochain, qui sortent à droite et à gauche, c'est que Apple veut quand même tenir la main au niveau de la sécurité de ses utilisateurs et des data, surtout, des données des utilisateurs. Donc il ne faut pas se dire que...
C'est un peu dans leur ADN, donc ils sont obligés quand même.
Mais l'idée, ce n'est pas de faire que l'utilisation ou l'incorporation de ChatGPT dans Siri soit un cheval de Troie pour aller absorber de la data utilisateur. Et quand bien même, l'idée, c'est de dire... On veut être ultra transparent. Quand la réponse a été générée par ChatGPT dans Siri, on va l'afficher. Et vous aurez même, vous, utilisateur et utilisatrice, la possibilité d'activer ChatGPT ou pas. C'est-à-dire que ça ne va pas être installé par défaut.
Donc on aurait le choix.
On aurait, alors d'après les rumeurs, nous sommes en train de lire et de commenter les uns et les autres.
Yves, quel est ton point de vue sur ce partenariat entre Apple et OpenAI? Si, il s'avère exact, hein, parce que rappelons-le, rien n'est officiel. Oui. Tout ça, ce sont des rumeurs, des supputations. Hein.
Alors, dans la tête d'Apple, les partenariats, comme tu dis, c'est pas génétiquement, c'est pas Apple.
Non. Okay.
Donc, quand il y a un partenariat, il est toujours en second plan. Okay. Et là, ça va être, à mon avis, assez intéressant. Donc, moi, je ferai le pari que la keynote, elle va se faire à peu près en 3 étapes. Okay. D'abord,
allez, on lance les paris.
D'abord, on n'aura pas de surprise hardware majeure. Ça va vraiment être que du software sur iOS 18. Et je pense qu'il y a une première partie, quelque part, qui va rappeler les fondamentaux d'Apple. L'expérience client à la clé. Okay. La sécurité. Okay. Et le fait que les données doivent être préservées. C'est-à-dire, ne doivent pas être mises sur le cloud et doivent rester... sur le smartphone. Donc, je pense qu'il va y avoir toute une partie qui est l'ADN profond d'Apple, et comme ils sont super bons en marketing, ils vont se différencier de tous les autres en rappelant cet ADN qui est extrêmement forte et extrêmement importante. Okay, en disant, moi, je ne veux pas utiliser le cloud, ou si j'utilise le cloud, c'est à minima, et vos données restent sur l'iPhone, et l'expérience client, c'est la vôtre. Et c'est là-dessus que nous, Apple, on met toute notre recherche d'intelligence artificielle, qui n'est donc pas générative. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est d'expliquer ce que ça veut dire pour l'utilisateur. Par exemple, on a une photo et on dit ben, « je veux que le ciel soit plus bleu ». Et donc, on va dire « je veux que le ciel soit plus bleu ». Et on va voir une démo de Steve Jobs où le ciel va devenir tout bleu. Ou de dire « classe-moi des emails par ordre alphabétique ».
Je ne sais pas si on aura une démo de Steve Jobs. Parce que le pauvre, il en sait pas vraiment qu'il en fait plus.
Généré par intelligence artificielle, ils vont très loin. Ce partenariat va très très loin.
Donc, ils vont nous parler.
Cela dit, Steve Jobs a été. Il y a une résurrection de Steve Jobs grâce à l'IA. Il y a eu plein de gens qui ont fait des interviews, qui ont renumérisé sa voix et tout. C'est impressionnant.
Donc, de Tim Cook, excusez-moi.
Tim Cook.
Donc, la deuxième partie, c'est d'expliquer comment, grâce à leur nouveau chipset, grâce à tous les efforts qu'ils
ont fait, les applications concrètes.
Les applications sur le téléphone vont embarquer l'IA. Et ça, c'est les meilleurs. Et ça, dans ce domaine-là, sur le Edge, honnêtement, personne n'en arrive à la cheville. Donc je pense qu'ils vont vraiment insister là-dessus. Puis après, ils vont dire, cela étant, on comprend qu'il y a une AI générative, okay, comme on est les meilleurs, on vous donne accès, grâce à un partenariat, à l'AI générative, qui est optionnelle, et si vous avez des hallucinations, c'est pas nous. C'est pas nous. Mais parce qu'ils vont être relativement prudents.
Mais malgré tout, l'appli ChatGPT existe déjà sur iPhone. Tu peux avoir l'appli ChatGPT.
Non, mais ils vont l'intégrer. Ils vont l'intégrer donc, dans Siri. Ils vont faire.
Voilà. Donc ils l'intègrent quand même pour rendre Siri plus intelligent et moins bête. Enfin voilà, plein de choses comme ça quand même. Donc.
Par contre. Moi, ce que j'attends.
Tu crois qu'ils vont quand même continuer communiquer sur le fait, attention, là, c'est plus nous, vous risquez d'avoir des hallucinations.
Non, ils vont pas communiquer en négatif. Tu peux pas, sur une keynote, tu peux pas communiquer en négatif. Mais ils vont quand même faire la distinction de ce qui est protégé de manière certaine dans la structure légale Apple, c'est-à-dire pour lequel Apple est juridiquement responsable, alors ce ne sera pas dit comme ça, et une autre partie sur laquelle Apple se sent moins engagé ou est juridiquement moins responsable, qui est un peu une entorse à la philosophie d'Apple. Alors après, moi, ce que j'aimerais entendre, j'en sais rien, c'est dire que ChatGPT-5, la première application de ChatGPT-5, ce sera sur Siri. Et ça, ce serait probablement le cherry on the cake.
Ouais, ça serait une sacrée grosse exclue. Et voilà. Mais alors, Microsoft, mais là ils sont comme ça.
T'as quelqu'un qui s'appelle Microsoft, et à mon avis, ça.
Ils vont pas laisser faire.
Ouais. Et ils laisseront pas faire. Non, moi, voilà.
Sauf si Apple lâche les milliards. Parce que ça peut être ça aussi.
Ouais, il y a quand même 13 milliards qui ont déjà été lâchés par Satya Nadella pour Sam Altman.
Je vous rappelle, quand même le montant des accords entre Google et Apple, c'est 18 milliards, je crois.
Hein.
Par an. Donc, ouais, tu vois ce que je veux dire. C'est des sommes monstrueuses.
Mais on n'est plus à 1 milliard.
Le OpenAI est quand même bien emmêlé avec Copilot et tout.
Certes. Non, mais je pense que. Mais c'est vrai que ça serait un super joli coup, là.
Mais pas forcément exclusif. Mais l'annoncer à ce moment-là, ce serait un joli coup.
Oui, mais ça veut dire que ça ne serait pas Microsoft qui l'annonce en premier.
Non, ce serait pas Microsoft qui l'annonce.
Et là, ça serait quand même compliqué, pour une boîte qui est sponsorisée par Microsoft.
Ah, Sam Altman est capable de tout.
Ouais, c'est sûr.
Il n'est pas loin de ce qui va sans doute se passer. Je pense qu'aussi, en filigrane, ce que va devoir montrer Apple, c'est mais on n'est pas derrière. On devait attendre notre WWDC. Attendez, on a pris le meilleur ChatGPT. On a continué à poursuivre nos puces qui sont toujours plus puissantes à regarder. Et puis nous, on vous offre cette expérience utilisateur. Et je pense que c'est là où là aussi ils sont très forts pour dire ah non, mais attendez, vous disiez tous qu'on était à la ramasse, mais on n'est pas du tout à la ramasse. Regardez,
on est les meilleurs.
Qu'est-ce que vous vouliez faire de plus sur votre portable, sur votre smartphone? On le fait. Donc voilà. Alors après, on pourra leur dire oui, mais c'est pas encore disponible sur Mac, c'est pas encore disponible sur la tablette. Mais je pense que l'art de leur grand rôle, c'est de se repositionner. Et puis même, le cours d'action reste toujours élevé parce qu'on va leur dire oui, mais la Chine, ça se passe pas aussi bien que ça, les ventes de smartphones, etc. Mais le truc, c'est de dire non, mais nous, on est au même niveau. On collabore avec OpenAI, on collabore avec Google, et puis nous, on est vraiment placez-nous en tête parce qu'on est vraiment dans cette course-là. Et c'est là où nous, depuis des semaines, on le dit, ouais, Apple, ils sont à la ramasse, hein, leur truc Ajax n'est pas prêt, tout ça. Et eux, leur grand message, même s'ils sont effectivement en retard, puisqu'ils s'appuient sur OpenAI et ils auraient préféré avoir leur propre outil, mais c'est le moteur de recherche, c'était pareil, mais ça va être de dire, non, regardez, on est
ils sont en retard sur les AI génératives.
Oui.
Mais sur les AI applicatives,
ils sont au niveau des autres.
Voire même
meilleur. Mais en l'occurrence, si en effet, on avait cette annonce qui tombait lundi prochain à 20h sur en direct sur BFM Business, ce serait une solution de court ou de moyen terme. C'est-à-dire que ça ne peut pas être un partenariat qui peut être prolongé sur une durée indéterminée. Dans la mesure où l'idée, c'est quand même de sortir un chatbot made in Apple, in fine, à un moment donné. Après, je comprends très bien le côté win-win perso pour Sam Altman et OpenAI, je comprends moins bien le côté win-win pour Tim Cook lui-même. Pour Sam Altman, c'est très simple, et OpenAI, il rentre de fait dans encore plus de millions d'unités de devices.
Mais je pense que pour Apple, ils n'ont pas le choix. En fait, il leur faut l'IA générative, parce qu'autrement, là, ils seraient complètement largués au niveau innovation technologique. Ils ne sont pas prêts, et ils sont obligés de pacter avec le diable, parce que Microsoft, c'est un peu le diable dans cette histoire-là, et OpenAI.
Donc, il faut savoir que Tim Cook, lui, il sait ce que c'est qu'OpenAI 5. Nous, on le sait pas.
Oui, bien sûr. Il a vu des démos, il sait exactement.
Lui, il sait. Et voilà. Et il peut pas laisser Siri.
Non. On est d'accord.
C'est pas possible.
Juste une chose, pour terminer là sur les rumeurs de la WWDC, Yves, j'espère quand même qu'il y aura un mot sur le Vision Pro, quand même. Parce que là, ça c'est bien sympa, mais le casque d'Apple, qui devrait d'ailleurs sortir dans quelques semaines en France, ça c'est les dernières rumeurs aussi, il devrait arriver. J'espère que durant la WWDC, où il avait été annoncé l'année dernière, on aura peut-être une belle mise à jour, ou peut-être de nouveaux partenariats, etc. etc.
Ouais. Je suis pas du tout sûr que ce soit la pièce maîtresse de l'annonce. Je pense que...
Je pense qu'il y aura un mot quand même sur Vision
Pro. Il y aura forcément un petit mot, parce qu'il faut continuer à faire rouler la balle, ou pousser la boule. Mais je pense pas que ce soit du tout l'objet de cette conférence. Il est obligé de dire un mot parce que il faut que tout le monde participe, il faut que tous les produits soient sur la chose.
Je me frotte les mains parce que là les paris sont lancés, les amis. Moi je pense qu'ils vont parler quand même du Vision Pro quelques minutes, mais on verra bien.
Ouais, quelques minutes sur 2 heures.
Ouais, c'est vrai. C'est quelques minutes, c'est 2 minutes en fait. C'est à partir de 2 minutes. Allez, on enchaîne avec le concurrent de ChatGPT, c'est évidemment Gemini. Comment tu dis, Gemini?
Gemini.
Exactement. Qui, tant bien que mal, essaie d'être au niveau de ChatGPT. On voit que c'est quand même assez compliqué, hein. Mais ça y est, Gemini, l'application est disponible en France. C'est-à-dire que si vous avez un téléphone Android, vous pouvez télécharger l'appli sur le Play Store et avoir donc cet assistant d'IA générative et voir ce qu'il a dans le ventre.
Il va vous répondre que le premier président musulman, c'était Obama, puisque c'est ce qu'il a répondu sur le PC, donc il va le répondre.
Et que manger des cailloux, c'est toujours une bonne idée.
Voilà, donc c'est pas Grok, hein, parce que là on aurait pu se dire, c'est l'IA un peu rigolote d'Elon Musk. Non, même pas.
Le Grok de Axon.
Voilà, c'est ça.
Même pas.
Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, juste une précision, c'est que vous dites, oui, mais sur iPhone, ça y est pas. Ça va arriver, mais par l'appli Google, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une appli Gemini. Il y a une appli Google sur l'iPhone, hein, et bien vous pourrez accéder à l'assistant conversationnel Gemini sur directement l'iPhone par cette appli. Mais Google joue gros quand même, non, là, parce que ils lancent leur bébé comme ça dans la nature, ils lancent en France, il faut que ça marche.
Oui, mais je lisais hier ou aujourd'hui un des derniers benchmarks, enfin un comparatif, comme on dit, entre les 3 AI et Gemini,
sur certains
points, sur les images, les traitements d'images, etc., serait même au-dessus de ChatGPT. Alors, je pense que c'est vraiment dans les détails qu'il faut regarder, mais Google est en train de rattraper son retard. Alors, il a encore des hallucinations, on en rigolait tout au début, ça va s'améliorer, mais c'est un acteur avec lequel il faut compter, hein. Et surtout que maintenant c'est dans Android, il ne faut pas oublier que Android a 70% de part de marché dans le monde, okay, où Apple en a que 30, ça veut dire que 7 personnes sur 10 en France vont accéder à l'intelligence artificielle par Gemini et probablement pas par OpenAI.
Ce qui est dingue, c'est comment OpenAI a donné un coup d'accélérateur à tout ça, et qu'ils ils vont sortir un produit qui n'est pas tout à fait prêt quand même. Enfin voilà, les hallucinations vont en avoir. Alors, et on voit qu'ils sont obligés de réagir face à un OpenAI qui est en train de faire la course en tête, parce qu'il faut quand même voir que dans les entreprises, y a des choix qui se font aujourd'hui. Alors souvent, les entreprises n'appuient pas tout sur le même, et fort heureusement pour elles, puisque hier, on a eu cette panne monumentale OpenAI. ChatGPT, même Gemini et puis Anthropic ont eu leur moment un peu d'égarement. Il y a que Mistral qui a toujours fonctionné, mais Mistral est uniquement dans l'univers entreprise, il n'est pas pour la partie en public. Mais en tout cas, donc les entreprises, elles commencent à s'habituer à mettre un peu, ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Mais là, il est important pour Google de montrer qu'il reste dans la course. Ne serait-ce que, alors on parlera de licenciement tout à l'heure, mais ne serait-ce que pour continuer à attirer des chercheurs et tous ces gens-là, leur dire, vous voyez, nous on est dans la course, qu'on n'est pas en train de se laisser dépasser.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce soit du côté entreprise ou que ce soit du côté utilisateur en B2C pour le coup, on est rentré dans la mode du c'est plus le bring your own device, c'est bring your own AI. Donc quel va être le chouchou, l'agent conversationnel préféré des utilisateurs finaux? C'est ce que joue la Google en l'occurrence dans ce match-là.
C'est ce que tout le monde joue en fait en ce moment. Quel va être le doudou IA en fait finalement?
Exactement. Et pour la partie B2C, ton doudou, tu veux surtout savoir ce qui t'aide à faire, est-ce qui t'aide à bien dormir, est-ce qui t'aide à faire de beaux rêves. Et c'est là où il va falloir être extrêmement concret pour Gemini et pour Google, montrer en quoi Gemini aide incroyablement à augmenter les capacités de ta réflexion et surtout ta recherche.
Pour terminer là-dessus.
Cela étant, depuis une semaine, mais vraiment depuis quelques jours, de manière beaucoup plus forte, il y a une voix qui monte ou une vague qui monte aux États-Unis. Il y a encore eu une lettre qui est parvenue de manière anonyme, mais avec, on sait, parce que c'est toujours anonyme pour ceux qui ne savent pas, mais pour ceux qui savent, ce n'est pas anonyme.
C'est pas anonyme, c'est ça.
Avec des grandes plumes derrière, qui disent, attention les gars, on est en train de jouer un peu à Dr. Faust ou à l'apprenti sorcier. On a bien vu qu'un certain nombre de personnes ont démissionné, les gens de la sécurité ont démissionné d'OpenAI. Et là, il y a des courriers, il y a des voix quand même qui se lèvent, qui sont en train de dire attention,
on va trop loin.
Il y a des problèmes de sécurité.
C'est pas la première fois.
Et ça va trop vite. Oui, sauf que la première fois, on va
le
dire.
Le premier patron de l'IA chez Google, comment s'appelle-t-il, Fred ? Toi, tu connais son nom ?
Goodfellow, enfin l'ancien. Non, enfin, le patron chez Google. Non, ça c'était l'ancien.
Qui est parti, qui était un peu le papa de l'IA chez Google.
Oui, oui.
Quand il est parti, il y a quoi, il y a deux ans, et en partant, il a dit.
J'ai l'impression de jouer au trial poursuite là, donc.
Exactement. Je peux vous le dessiner si vous voulez, mais.
Et il y a trois semaines, c'est celui d'OpenAI qui a fait la même chose.
Voilà, et il avait dit à l'époque, attention, ça va beaucoup trop vite, beaucoup trop loin, ça peut devenir un danger pour l'humanité.
Et il y a un débat qui est en train de monter aux États-Unis sur la régulation externe, ce que nous, on a, enfin, ce qu'en Europe, on a fait.
Avec l'IA. Jeff Hinton.
Et Jeff, bien sûr.
Qu'est-ce qu'on cherchait?
Marjorie le connaît par cœur.
Et l'autorégulation, donc je reprends.
Oui.
Donc, un débat aux États-Unis qui est-ce qu'il faut réguler le choix qu'on a fait en Europe avec une régulation externe ou est-ce qu'on doit avoir l'autorégulation? Et j'ai écouté, il y a encore une fois quelques heures, un débat aux États-Unis où ceux qui sont contre la régulation prenaient l'exemple, ils disaient la régulation interne des entreprises. Les entreprises du tabac, c'est ça ? Les entreprises de l'armement, les entreprises de la junk food, c'est ça dont vous voulez ? Et donc, il y a un vrai débat en pleine campagne électorale qui est en train de monter sur est-ce qu'il faut réguler ou est-ce que c'est la régulation interne ? Et c'est exactement le débat d'OpenAI.
Mais il pourrait s'inspirer de ce qu'on fait ici, en Europe.
Il mentionne ça.
Il regarde de près.
Tiens, l'IA, on enchaîne, les amis, avec cette IA qui pourrait remplacer les artistes. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, et à partir d'œuvres existantes, on en a déjà parlé, l'IA arrive à créer de nouvelles chansons. C'est-à-dire que vous dites à un logiciel, vous écrivez un texte, et cette IA va créer une chanson avec le texte que vous avez écrit. Et le truc, c'est que la plupart du temps, c'est plutôt pas mal, en plus. C'est plutôt réussi. Mais bientôt, elle aura même plus besoin d'inspiration, cette IA. Et c'est l'inquiétude, en fait, de la patronne de la SACEM, qui s'appelle Cécile Rapp-Weber. Elle était hier matin l'invitée de France Info. Et on l'écoute, vous verrez, vous allez voir ce qu'elle dit est très très intéressant. On revient juste après.
Ce qui va être beaucoup plus challenger pour nous, dans le futur, très proche d'ailleurs, parce qu'on voit déjà les résultats, c'est que, comme vous le savez, les intelligences artificielles ont besoin de se nourrir d'œuvres préexistantes, notamment de toutes les œuvres de la SACEM. Elles les aspirent et finalement, elles arrivent à faire, en sortie de process, des nouvelles œuvres. Et on arrive malheureusement à un chiffre qui est terrible, puisque ça serait 27% des créateurs qui viendraient à disparaître, ce qui représente à peu près 2,7 milliards d'euros en cumulé d'ici à 5 ans pour uniquement les Français et les Allemands. Donc vous imaginez au niveau mondial.
Alors, c'est la patronne de la SACEM. Mmh. Elle n'est pas totalement neutre, la dame. Elle est très sérieuse, très compétente sans doute, mais c'est la patronne de la SACEM. Elle est là pour défendre les musiciens, les auteurs, les compositeurs et les interprètes. On est d'accord ?
Ouais.
Mais malgré tout, ce chiffre est quand même impressionnant. 27% des créateurs pourraient disparaître grâce à l'IA.
Alors, en l'occurrence, la Cécile Rapp-Weber fait référence à une étude qui a été menée en effet par la SACEM et la SACEM allemande qui s'appelle la GEMA, qui date du début 2024, janvier-février 2024, dans lequel il y avait en effet ce chiffre pronostiqué de 27% de créateurs et créatrices qui pourraient être amenés à disparaître par les créations générées par l'IA générative. Ce qu'elle ne dit pas dans cette phrase-là, mais elle le sait, elle le connaît son étude par cœur, c'est qu'en l'occurrence, l'étude dit aussi que 3 milliards de dollars pourraient être générés en revenus grâce aux créations AI Gen d'ici 2028. Donc en fait,
oui, ça s'équilibre en quelque sorte.
Exactement, les milliards.
Le business s'équilibre. Mais à qui on redistribue ces 3 milliards?
Alors,
c'est ça le problème.
Exactement. Et toute la question, tout le nœud gordien justement des questions d'IA générative et de création et des industries créatives est là. Qui a encore l'IP et qui peut bénéficier de façon sonnante et trébuchante, c'est-à-dire en monnaie, en argent, de cette IP-là? C'est l'enjeu du siècle pour toutes les industries créatives. Je sais qu'il y a, par exemple, tu parlais notamment des doubleurs des métiers du cinéma qui aussi ont du souci à se faire en la matière. on est vraiment sur des questions de redistribution et même de financement tout court de la création à terme. C'est vraiment le problème. Dans cette même étude, il y a aussi un chiffre qui est assez intéressant, c'est-à-dire que je crois que c'était 15 000 à peu près créateurs et créatrices, éditeurs et éditrices sur lesquels ils se sont basés entre la SACEM française et allemande. Tu as 31% déjà de créateurs qui disent qu'ils utilisent l'IA dans leur quotidien, dans leur création. Ça monte à 50% pour les créateurs de moins de 35 ans.
Et oui. Bien sûr.
Donc, si elle veut continuer à fidéliser aussi, parce qu'il y a aussi, alors, il se trouve qu'en côté SACEM, on est en période d'élection et donc de renouvellement du board aussi. Je donne ce sous-texte, on ne sait jamais, avec toutes les métiers que j'ai pour Cécile Rabeber par ailleurs. Mais on est aussi dans l'idée de se dire, ok, comment est-ce qu'on va aller défendre ces créateurs et ces créatrices, et surtout comment est-ce qu'on assure la continuité de notre business avec les jeunes qui sont là aussi pour continuer à être adhérents à la SACEM.
Qui veut enchaîner là-dessus, pour terminer.
Moi, ce que je dirais, c'est que je regarde pas sous cette perspective-là, parce qu'il y a une perspective financière, et ils veulent garder leur vache à lait, ça je le comprends. Moi, je regarde ça sous la forme d'outils. Il y a eu le clavecin, puis après il y a eu le piano, puis après il y a eu le synthétiseur. Dans la musique, on écrivait les notes à la main, et puis après, à l'IRCAM, Pierre Boulez, il a inventé des machines avec des physiciens qui programmaient ça. Maintenant, la future machine de feu Pierre Boulez, c'est l'intelligence artificielle. Donc c'est une évolution. Donc moi, je regarde l'intelligence artificielle non pas d'un point de vue financier, d'un point de vue artistique. C'est une nouvelle machine ou un nouvel instrument de musique qui va permettre d'augmenter et de faire des performances musicales d'un autre domaine. Et je pense que quelqu'un comme David Guetta, à mon avis, va continuer à s'en emparer pour faire des trucs extraordinaires.
Sauf si je puis me permettre, petit bémol par rapport à ce que tu dis,
c'est le plus carré de le dire.
C'est beau.
Ouais. J'ai même pas fait exprès en plus. C'est ça qui est fort.
Mais c'est ça qui est beau. C'est intuitif.
Appuyez sur la touche dièse, c'est ça.
Attendez, parce que j'ai quasiment oublié ce que je voulais dire. Non, mais ce que tu dis, c'est que effectivement, il y a eu des évolutions dans la fabrication de la musique. Mm-hmm. Mais là, c'est la création de la musique. Depuis toujours, il y a eu un compositeur et un auteur. Là, en fait, le compositeur et l'auteur, c'est l'IA. Et c'est ça, c'est complètement nouveau. Parce que comment tu vas faire pour rémunérer une IA qui va créer une chanson? Elle se sera forcément inspirée de Jean-Jacques Goldman, de Céline Dion, de Fred Simotel sous la douche, pour en faire un truc sympa. Mais
ce sont des Rubik's Cube en matière de droit d'auteur qu'on étudie depuis très longtemps. En l'occurrence, tu as déjà des décrets européens, tu as déjà des définitions en droit nationaux.
Pour terminer.
Par rapport à la création, elle est plus sur toute la bataille juridique autour des droits, des droits d'auteur, de la propriété intellectuelle. C'est plus là-dessus qu'il faut se battre plutôt qu'aller dire on va interdire l'IA ou je ne sais quoi.
Le Computex dans un instant. Yves Maître, Marjorie Paillon, Frédéric Simotel, quotidienne de Tech & Co revient juste après l'info éco qui arrive tout de suite. Merci d'être là.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, le retour de Tech & Co, la quotidienne, avec pour débriefer l'actu ce soir, Marjorie Paillon, qu'on ne présente plus, journaliste tech, bien évidemment. Yves Maître est avec nous, et Frédéric Simotel. Et Aude Kersulek nous a rejoint aussi. Bonsoir Aude.
Bonsoir.
Aude, tu vas nous parler de Google et Microsoft qui licencient dans leur filiale cloud, et pas qu'un peu.
Oui, des centaines d'emplois concernés, ça commence à être coutumier dans la tech. Mais là, ça vise les divisions du cloud. Environ une centaine de personnes concernées chez Google Cloud. Vente, opérateur, ingénieur, conseil et stratégie de mise sur le marché. Beaucoup de métiers concernés, c'est ce qu'avance en tout cas CNBC. Des licenciements qui ont déjà eu lieu après d'autres vagues déjà chez Google au début de l'année. Alors c'est un petit plan chez Google par rapport à ce qui se passe chez Microsoft. Là, c'est dans la division Azure. C'est quand même étonnant parce que la division Azure, elle investit dans l'intelligence artificielle. C'est elle qui est aussi à l'origine d'un partenariat avec OpenAI et ChatGPT. Des salariés concernés, notamment ceux qui travaillent sur le casque de réalité mixte HoloLens, ainsi que des programmes sur le spatial ou encore l'informatique quantique. Donc un petit peu plus de 1500 personnes. Azure, c'est aussi normalement un levier pour Microsoft en termes de revenus et de croissance des revenus. Alors là, il semble qu'il faille préserver les marges, en tout cas en bourse. C'est positivement accueilli sur les marchés. Il faut dire qu'on est dans un jour où tout monte aussi dans le secteur de la tech. Plus 1,6% pour le titre Microsoft. C'est un petit peu moins pour le titre Alphabet qui monte en ce moment de 0,4% à Wall Street.
Merci beaucoup, c'était Aude Kersulek. Messieurs, dames, petite réaction peut-être à cette explication claire d'Aude concernant ces licenciements dans le cloud. c'est vrai que nous, dès qu'il y a des licenciements, ça nous choque. Mais est-ce que ça choque les Américains, finalement? Parce que là-bas, c'est un peu le quotidien, quoi. Il y a les boîtes se délestent de centaines de personnes, mais après, vont réembaucher peut-être même plus dans d'autres branches.
Oui.
Et les ingénieurs qui partent de Microsoft vont chez Google ou ils vont chez Apple, etc. Enfin, pour nous, c'est une actu. Mais est-ce que c'est une actu, tiens, aux États-Unis, Yves?
Ceux de Azure, ils sont à Seattle. Et AWS et à Seattle. Donc, je veux dire qu'il y en a 1000 débauchés d'un côté, on les rembauche de l'autre, etc. etc. Non, mais il faut faire attention, parce que quand on entend, avec la culture française, comme tu le dis, licenciement, oh,
oui,
c'est un drame.
Voilà, il y a toujours cette psychose, on va dire, sociale.
Alors, on pourrait interpréter ça comme, tiens, le cloud se casse la figure. Pas du tout, c'est pas du tout ça. Le cloud est en train d'augmenter, tous les chiffres le donnent, il suffisait d'écouter tout le monde. Okay. Alors, on se dit, pourquoi, tout d'un coup, Microsoft licencie 1500 personnes? Alors, ils licencient 1500 personnes sur un domaine très spécifique. C'est-à-dire, ce sont des choses où ils ont lancé, parce que c'est comme en recherche, on lance des projets de partout.
C'est Google 1500, ouais.
C'est Microsoft. C'est sur la division quantique du cloud et...
Et telco. Et puis aussi sur HoloLens. Okay.
Ouais, alors, donc,
telco, il en restait encore des gens chez Windows Phone.
Non, c'est pas ça.
C'est
très sérieux parce que moi qui suis un passionné de telco, parce que ça a quand même été une partie de ma vie, en fait, à un moment donné, on a dit on va virtualiser les fonctions du cœur de réseau d'un téléco. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des machines dédiées, on va les mettre dans le cloud. Okay, on va virtualiser les réseaux de télécommunications. Donc il y a eu beaucoup d'argent qui a été fait. Donc Microsoft, qui a un gros cloud, comme AWS, ont embauché des ingénieurs en télécommunications pour dire, voilà, votre boulot, votre recherche, c'est de faire ça. Pour mettre à mal les Sony, les Nokia, les Huawei, les ZTE, principalement. Okay, et donc il y a eu énormément d'argent qui ont été investis dans cette chose-là. Et là, on n'y arrive pas, ou ils n'y arrivent pas comme ils le voudraient. Donc ils sont en train de diminuer grandement les frais de recherche. Donc évidemment, ces ingénieurs-là, qui étaient très spécialisés, il les renvoie à leurs chères études. Pareil sur HoloLens. Donc il faut faire attention à ce que le public ne pense pas qu'il y ait une crise du cloud, ne pense pas que Microsoft...
C'est des licenciements plus stratégiques qu'économiques. Alors évidemment, les deux sont intimement liés, mais c'est plus pour des raisons... On change de stratégie que pour faire des économies, véritablement. Parce qu'ils sont arrivés au bout de quelque chose, ça marche pas, on arrête, quoi.
On fait cette économie-là parce qu'on a besoin de la déporter ailleurs. En l'occurrence, évidemment, comme tout le monde, sur l'IA générative. Et ça veut surtout pas dire que le cloud est mort, parce que le cloud et l'IA font bon ménage, comme tout le monde le sait autour de cette table. Au contraire même, c'est une proposition forte pour Azure et pour Google Cloud vis-à-vis de leurs clients. Et les derniers résultats trimestriels de Microsoft, notamment, ont ultra performé, parce que la moitié de ce chiffre d'affaires-là venait justement du cloud.
Oui.
Donc, je suis d'accord avec Yves, il ne faut pas que le terme de licenciement transporté dans une culture du travail française ou francophone ne fasse plus peur que ce qu'elle ne veut dire en réalité pour la stratégie de ces boîtes qui disent « Nous, on reste agile et on a des stratégies qui, justement, sont créatives et sont agiles en fonction des besoins qu'on a. »
Oui, puis il faut remettre en perspective, hein, Microsoft, c'est près de 150 000 personnes. Voilà, on est à 1% des gens.
Puis dans 3 semaines, ils vont en embaucher 500 autres dans d'autres secteur, en fait, c'est ça.
Et pareil pour Google, qui a 72, 75 000 personnes. Bon, déjà, voilà, faut voir le nombre. Alors, nous, c'est vrai que quand on nous dit on licencie 1500 personnes, nous, c'est une entreprise qui s'arrête, que c'est une entreprise qui meurt. Chez eux, pas du tout. Et puis, je pense qu'il y a effectivement cette partie métier. Il y a une partie aussi d'automatisation qui se fait aujourd'hui grâce au cloud. Et le cloud se vend, on le voit dans les entreprises, hein, on commence à avoir des vrais spécialistes cloud dans les entreprises, qui en plus font appel à des services automatisés, donc il n'y a pas besoin d'autant de force commerciale, donc là aussi...
Ça se vend tout seul, quoi.
Ça se vend pas tout seul, mais il n'y a plus besoin d'avoir le commercial qui va venir expliquer, les gens disent, moi je veux tel type de service, il va sur une plateforme, il va les choisir...
Oui, ils commencent à être acculturés, en fait.
Voilà, ils sont acculturés là-dessus, et d'ailleurs ils le disent, hein, c'est plus des ajustements, alors il y a l'ajustement technologique, il y a l'ajustement commercial, voilà, et derrière ça libère des budgets pour d'autres pour aller fournir l'IA où là on a besoin de gens qu'on va payer d'ailleurs assez cher, quoi. Mais je pense qu'il faut aussi voir, tu vois, par rapport aux opérateurs, c'est qu'il travaille avec ses opérateurs, puis il dit finalement cette partie-là, c'est vous qui allez la faire. Nous, on voit tous ces gros accords avec Orange, qui a profité du Mobile World Congress pour annoncer des gros partenariats dans le cloud avec Google, avec tous les grands acteurs. Donc voilà, on est là aujourd'hui. On est dans des offres spécifiques. Amazon AWS, il signe avec des grands industriels allemands, avec Volkswagen, etc. Donc voilà, ils vont aller directement à former les gens, à travailler avec eux. Google en France, Google Cloud, c'est avec Carrefour, c'est avec Total Energy. Voilà, c'est des forces assez spécifiques, quoi. Ils préfèrent investir là-dedans qu'avoir effectivement en plus sur un métier où peut-être qu'ils arrivaient en bout de chaîne en se disant bon, on n'y arrivera pas, on va s'adresser aux spécialistes. Donc,
et puis c'est le pragmatisme de ces grosses boîtes, c'est-à-dire que ben voilà, au bout d'un moment quand ça marche pas, c'est pas grave. On arrête
chez
et
Google,
on part sur
contre,
autre
c'est
chose.
C'est beaucoup plus des commerciaux, hein. Chez Google, quand on regarde un peu les profils, hein, c'est du commercial, du ce qu'ils appellent du go-to-market, on sait vraiment celui qui va. Donc là encore, là on est dans l'effet automatisation entreprise, il n'y a plus besoin d'autant de commerciaux pour vendre ça. Et puis je pense que c'est toujours, on vit encore la fin des années Covid où on a embauché. On s'est dit, oh là là, ça va pousser, tout ça. Puis on se rend compte que,
finalement, on revient à la normalité.
On a peut-être un peu trop embauché. Enfin, quand on appelle des gens à Silicon Valley, ils disent, bah oui, nous, moi, dans mon équipe, j'avais 3 personnes. Ils étaient en formation depuis 9 mois. Il y a un moment, si on leur trouve quelque chose, ils ont un projet.
Puis honnêtement, quand on embauche massivement, des fois, on n'embauche pas que des bons. Ouais. Des fois, on embauche des gens qui n'arrivent pas à s'adapter à la culture d'entreprise, bien qu'ils soient bons. Et les Américains, ils sont assez pragmatiques. S'il faut couper, on coupe, quoi. Bon, pas bon. On essaie de garder les bons, mais t'as pas réussi à t'adapter, t'es pas dans le rythme. Tac, terminé.
Faut noter juste le transfert du patron de Microsoft, Copilot, qui est parti chez Google sur l'IA, là.
Ah, ouais, c'est un joli mercato quand même. Hein.
Foot, hein. C'est vraiment,
c'est vraiment là, oui. Il quitte la première équipe de Ligue 1 pour aller
au Real Madrid.
Mais c'est ça, exactement. Dans l'actualité aussi, c'est évidemment du côté de Taïwan et plus précisément de Taipei avec le Computex. Gros salon informatique historique, hein. Ça existe depuis combien de temps, Computex? C'est vieux comme le monde, ce truc-là.
90, 92, ouais, voilà, c'est comme ça.
Gros salon dédié à l'informatique, aux puces, etc. Qu'on évoque tous les soirs dans Tech & Co, parce que, alors non pas qu'on est obsédé par le Computex, mais quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui la valorisation de la puissance de calcul, notamment avec l'IA, tout se trame là-bas, et toutes les annonces ont été faites là-bas, hein, Yves. Tu connais bien le Computex, puisque tu as été dirigeant de HTC il y a quelques temps de cela, qui est une boîte taïwanaise, donc tu connais tout cet écosystème. Hein. Computex, c'est incroyable, ce salon.
Alors, d'abord, moi je pense que tu parlais en introduction, tu dis, est-ce que c'est un grand cru? C'est un changement. Avant, il y avait Computex 1.0, maintenant, c'est Computex 2.0. Et je pense qu'il faut vraiment expliquer aux gens que le PC tel qu'ils l'ont vécu, c'est un peu comme le Minitel d'avant, quoi. Ça va se terminer à la poubelle. Okay. Alors, jetez pas vos ordinateurs.
C'est ce que Microsoft dit d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu. Si votre PC ne peut pas être mis à jour pour Windows 11, c'est d'ailleurs ils sont fait toquer sur les réseaux parce que ils disaient il faut changer de PC, quoi. Il faut que vous jetiez votre PC pour en prendre un nouveau, ce qui est pas très mal.
Ce Computex là, c'est le premier Computex de l'ère de l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Et les gens disent, ce n'est plus un PC. C'est un intelligence artificielle PC, parce qu'on n'a pas trouvé d'autres mots. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est ça qu'il faut lire. Par-delà le changement de nom,
Être que du marketing, ça finalement. C'est pas la première fois qu'on nous raconte
dans le monde ancien du PC.
Ah ouais.
Dans le monde ancien du PC, le leader du PC quelque part, c'était Intel. Il avait au départ 100% de part de marché, ok. Puis après, le régulateur l'a obligé à en créer un autre, donc il a donné la licence de sa langue, parce qu'il avait une langue Intel. Cette langue Intel s'appelle le X86, donc on l'a forcé. Alors tu peux pas être tout seul à parler cette langue et être monopolistique, d'avoir un monopole mondial. Donc tu donnes la langue à un autre. Il y a eu AMD qui a été créé. Donc il y avait 2 personnes qui avaient le droit de parler de cette langue.
C'est taïwanais, AMD, non? C'est ça?
Non, c'est une taïwanaise qui dirige.
Ah oui, pardon,
AMD.
C'est une taïwanaise, mais
comme
c'est une boîte...
c'est un taïwanais qui dirige Nvidia, taïwanais américain dans le
Mais AMD, quoi, est américain?
Elle est taïwanaise.
Non, mais la boîte.
AMD est américaine.
Oui, c'est
une boîte américaine. Mais les deux, Nvidia et AMD, sont dirigés par
des Taïwanais.
Une femme et un homme. Et bon, ça, c'est pour la petite histoire. Et donc, en gros, il y avait La langue des PC, c'était Intel, qui avait 80% de
parts
de marché.
Attention au micro, à chaque fois tu tapes dedans.
Je suis désolé.
C'est pas grave, ça fait pour les je pense que nos auditeurs, les pauvres qui sont dans la voiture.
Et 20%, c'était AMD.
Ça va déclencher des airbags dans la voiture.
Et 8 millions de rappels.
Ouais, ça fait beaucoup quand même.
Et là, tout d'un coup, comme c'est un nouveau monde qui est en train de s'ouvrir, les gens se disent, cette espèce de monopole d'Intel, on va le bouffer. Alors il y a AMD qui dit, moi je vais le manger toujours sur dans langage x86, et puis tu as Qualcomm et Nvidia qui disent, mais il n'y a pas de raison que vous continuez à parler x86, parce que la langue de l'intelligence artificielle, c'est une autre langue qui s'appelle du ARM. Okay. Donc, moi je dis, et je vais attaquer le monopole d'Intel en disant, dans le futur, je vais prendre 50% de part de marché, ce qui veut dire que, AI PC sur deux parlera ARM et l'autre parlera x86.
Avec derrière, excuse-moi je te coupe parce que c'est important, l'arbitrage de Microsoft qui souffle le chaud et le froid là-dedans.
Qui souffle le chaud et le froid.
C'est-à-dire que Microsoft dit, ok, bon, moi je préserve toujours Intel et AMD, mais je vais dérouler le tapis rouge, et on le voit là actuellement, à Qualcomm et tous les autres pour que justement...
Avoir mes propres puces aussi.
Voilà, c'est ça.
Oui, mais là OpenAI dit, attends, moi j'existe Microsoft, j'existe indépendant de toi, et moi je suis avec Nvidia. Donc on voit bien que dans l'ancien monde, c'était Microsoft Intel qui dominait tout, décidément.
Décidément.
Majoritairement.
Encore trois airbags là, à déclencher. Je viens de recevoir l'information d'Autoroute FM. Donc faites attention quand même.
C'est une bonne mesure d'audience en même temps.
Oui, c'est pas mal. C'est pas mal.
Et donc, dans ce nouveau monde, l'usage est complètement remis à plat. Et tous les grands acteurs sont en train de se faire la guerre pour prendre ce marché. C'est ça qui vient de se passer ces quelques jours.
Et je disais tout à l'heure, et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que je trouve que tu rejoins un petit peu ma vision, c'est que Intel joue gros finalement, parce que depuis toutes ces années, ils étaient tranquillement installés avec un 80% pour eux, 20% pour AMD à peu près, je ne sais pas trop, mais on était dans... Tout le monde était tranquille et content. Et là, il y a Snapdragon et Qualcomm qui vont foutre la pagaille, quoi, si
après,
je puis dire.
Après, Intel, ce qu'on en a parlé hier...
Et Microsoft compte les points.
C'est que Intel a quand même un avantage, c'est qu'ils sont eux-mêmes fondeurs. Donc, ils peuvent aller un peu plus vite. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est qu'ils commencent à changer un peu le mindset de tous ces dirigeants aujourd'hui. Il faut avoir un peu, parce qu'aujourd'hui, c'est pas les plus anciens qui continuent à penser on est les meilleurs et on restera les meilleurs. Mais en tout cas, en termes de dirigeants, il faut qu'ils aient des dirigeants qui soient beaucoup plus réactifs aujourd'hui, parce que pour garder cette.
Tu as absolument raison. Sauf que le chipset qu'ils ont annoncé, leur Rolls ou leur Ferrari. Ouais. Il va pas être fait chez eux.
Oui.
Il va être fait chez TSMC. Donc ils sont fondeurs, mais ils disent qu'ils sont en retard. Donc il va rattraper. Donc ils doivent.
Mais ils ont pas le premier choix. Ils sont fondeurs, mais ils n'ont pas le premier choix.
Ils n'ont pas le premier choix. Donc il faut qu'ils rattrapent en fonderie. Oui. Il faut qu'ils gardent leur part de marché. Ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué.
On a terminé sur le Computex. Marjorie, on a tout dit là-dessus.
Disons que cette édition, elle est fidèle à ce qu'elle annonçait. Connecter l'IA, c'est vraiment ça donner. Encore une fois, encore plus d'incarnation, encore plus de corps, encore plus de faisabilité à cette informatique en mode IA. Mmh. Et par ailleurs, Taïwan est une île fantastique.
En plus, il paraît, moi je rêve d'y aller. C'est vrai, il faudrait qu'on fasse un Tech & Co à Taipei.
Allons-y tous ensemble.
Il y a plein de trucs passionnants en termes d'innovation technologique. Mmh. Écoutez, il faut qu'on y arrive. Il y a Léa, notre productrice, qui crie « Oui !» On va y arriver, vous allez voir, on va y arriver. Juste un mot pour terminer sur le Computex, parce que tu connais bien ce salon. Ce qu'on voit là, c'est aussi une accélération des cadences de sortie des processeurs. Je ne sais pas si tu as suivi, mais Nvidia a dit maintenant, c'est plus tous les deux ans qu'on sortira de nouveaux chipsets, c'est tous les ans.
Tous les ans. Alors ça c'est aussi une vraie révolution parce que...
Ça s'emballe, ça s'accélère.
Ça c'est très compliqué à faire. On ne se rend pas compte, mais c'est comme si on disait Renault va faire des voitures en 6 mois ou en 1 an.
Oula,
c'est très compliqué. Donc je pense que ce que dit Nvidia... C'est un objectif. Je suis pas sûr qu'on y soit encore, parce que faire un chipset en un an, il n'y a pas que la fabrication, il y a tous les tests de sécurité, toute l'intégration hardware-software.
Tout ça avec des finesses de gravure de plus en plus basses.
Et surtout des capacités de calcul de plus en plus fortes, du software à intégrer qui est de plus en plus complexe. Il y a toute la sécurité derrière, toute la cybersécurité.
Et dernière chose aussi, même si on a un SoftBank qui est asiatique, c'est quand même la mainmise des capitaux américains sur tout cet ensemble. Qui finance tout ça? c'est de l'américain à 100%, même bien si sûr. C'est à Taïwan, même si c'est en plus
c'est les privés.
En Chine et tout ça, c'est quand même les Américains qui sont en train, qui sont derrière Nvidia, derrière AMD, derrière Intel, derrière Qualcomm, derrière.
Je vois que tous les fabricants littéralement sont à Taipei cette semaine pour Computex. Nvidia évidemment, AMD, Intel, Google, Qualcomm, Foxconn, Acer et Asus. Les Européens, ils sont où?
Et ouais.
Pardon, il y a
les Européens.
Bah, il y a peut-être ASML qui doit avoir un stand.
ASML n'est pas.
Mais c'est vraiment, enfin, pour y être allé aussi, c'est vraiment c'est un salon de l'électronique. On a les gens qui vendent du fil de cuivre, on a les gens qui vendent des capteurs nano, enfin,
des optiques et tout ça. On est composants, quoi.
Moi, ça m'inquiète toujours.
Non, mais tu as raison.
Pour être leader d'un secteur ou d'une industrie, que ce soit du software ou pas, on n'a pas la partie hardware assurée.
Ah non,
on n'a pas la partie infra. Avec
après, ils doivent y être, Soitec, STMicro, alors ils sont peut-être perdus.
Soitec, probablement.
Oui, Soitec, probablement.
STMicro, probablement.
Mais sur des briques technologiques très particulières aussi.
Un mot, tiens, pour terminer, il nous reste 5 minutes, les amis, puisqu'on a terminé sur Computex. On s'engage l'année prochaine à y aller. Donc voilà.
C'est un engagement.
Je ne sais pas.
Attention, c'est sur caméra, on peut trop.
Non, mais en plus, Yves, c'est le guide du routard de Taipei. Voilà. Il a toutes les bonnes adresses, les bons restos, les trucs et tout. Il faut absolument qu'on y aille avec lui. On va parler d'Orange, parce que Orange a deux actualités qui sont intéressantes. Je ne sais pas si on va avoir le temps de commenter les deux, mais en plus, avec le point de vue d'Yves qui a travaillé longtemps chez Orange, c'est le lancement d'une offre commerciale, une nouvelle offre commerciale, Fred, une offre de cybersécurité. Alors, on le sait que la cybersécurité, c'est un sujet très sérieux chez Orange, mais pour le B2B. Sauf que là, cette offre, elle est pour le grand public. Et on se dit, waouh, qu'est-ce que ça va être? En gros, c'est pour 7 euros, eh bien, vous allez sécuriser votre téléphone des appels frauduleux. Hein, c'est ça, si j'ai bien compris, Yves.
Je trouve que tu résumes parce que c'est plus que ça. Ouais. Parce que sécuriser son téléphone sur les appels frauduleux, il y a une application, je pense qu'on en parlera parce que c'est assez drôle.
Si on a le temps, parce qu'il nous reste 4 minutes, ça va être chaud.
Mais non, c'est vrai. Enfin, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la cybersécurité qui s'attaquait avant aux entreprises, aujourd'hui s'attaque à tout le monde. Donc personne n'est à l'abri de se faire attaquer par la cybersécurité, les AI étant... voilà. Et donc il faut protéger les gens. Et Orange sort une offre qui dit je protège tous vos devices, le PC, la tablette, vos smartphones, avec une offre à 7 euros.
C'est 10 devices par foyer, pour être tout à fait...
Voilà, 10 devices par foyer.
On est tranquille.
Et dans ce device-là, il y a l'application, la fameuse application Orange Téléphone, okay, qui a une histoire un petit peu cocasse, puisque tu parlais
t'étais à la tête de cette équipe-là, voilà, à l'époque, parce qu'elle est pas.
J'étais sponsor de cette chose-là pour une raison un peu bizarre, mais non. Mais ce qui est rigolo, et je pense que c'est ça qui est marrant dans la vie de la tech, c'est que des fois on fait quelque chose avec un objectif. Et puis il se passe autre chose.
Mais, alors, mais on le découvre 10 ans après. Je crois qu'on a le temps. Tu peux nous le dire, ça. Il n'y a pas de secret. On est en quelle année, quoi?
Je sais pas, on doit être à 2015, 2016, quelque chose comme ça.
Les opérateurs voient arriver la voix sur IP comme un ennemi.
Absolument.
Bien évidemment, à l'époque.
Surtout Orange. Surtout France Télécom de l'époque.
Hein. Voilà. C'était la manière la plus simple de téléphoner, hein. Passer par la ligne téléphonique. Et là, la voix sur IP arrive et ça fout la pagaille chez vous. Tout le monde commence à paniquer. War Room chez Orange.
Voilà. Non, en fait, pourquoi les gens paniquent? Parce que le bouton vert, ce qu'on appelle le bouton vert, quand on appuyait sur le bouton vert,
qui permet de décrocher, d'appeler,
ont tombé automatiquement sur les services, sur les tuyaux, j'allais dire, d'Orange. Et donc, on facturait à l'heure. On avait 500 SMS et 3 heures de télécommunication. Alors, en Europe, ça devenait un peu plus.
Oui, c'était plus des forfaits.
Mais en Afrique, mais dans un certain nombre de pays-là, c'était encore comme ça. Donc, c'était une grosse part des revenus.
Ça, c'était la grosse vache à lait
des opérateurs télécom, donc d'Orange, qui passait par là. Et là, tout d'un coup, des gens comme Google avec Android disent, mais attendez, mais aujourd'hui, on peut faire gratuitement en passant par un autre réseau qui est le réseau de l'Internet, le réseau IP. Mm-hmm. Et donc, bah, ce bouton vert, on va quelque part l'enlever ou lui donner la possibilité de choisir soit vous passez par l'IP, soit vous passez par le réseau des opérateurs. Ah, évidemment, les opérateurs,
en
le bas de combat, qu'est-ce que c'est cette histoire?
Et oui, parce que c'était évidemment tous les forfaits qui disparaissaient là d'un coup.
C'était un gros problème de revenus. Bon. Alors, comme tu dis, War Room, réunion de crise, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, plan A, c'est on fait du lobbying et on se réunit tous les opérateurs pour casser la figure à ces abrutis d'Android qui comprennent rien, ok? Et donc, Yves, tu sautes dans un avion, tu fais le tour des opérateurs, vous faites un groupement et vous allez voir Android pour dire tu arrêtes ces bêtises. Bon, ok. Donc ça, c'est le plan stratégique numéro 1, etc. Donc je fais ma valise comme d'habitude. Si, ça a à peu près marché, mais on a gagné du temps. On va dire ça comme ça. On a gagné du temps.
Mais alors, vous, parce qu'il faut qu'on se dépêche.
Plan B, c'est si ça doit être de la voix sur IP et une application, faisons notre application nous-mêmes. Et mettons nous-mêmes, allons voir Samsung, allons voir tous les gens pour leur dire, mettez mon application, puisque on n'est plus sûr de l'avoir, donc on va. Et donc, il faut faire cette application. Donc, on fait une application, puis à un moment donné, dans une réunion, il y a quelqu'un qui dit, mais pourquoi ils vont prendre la nôtre et pas celle d'une autre ? Ah, je sais pas, parce que c'est la nôtre. C'est peut-être pas suffisant. Parce qu'elle est orange, c'est peut-être pas suffisant. Alors, il y a quelqu'un qui lève le doigt et qui dit, vous savez quoi ? On a une base de numéros de téléphone. On connaît tous les numéros de téléphone de spam, puisque c'est nous qui les vendons. C'est les opérateurs qui les vendent et la base, elle est commune. Ben, si on donne accès à cette application, on saura si c'est un vrai coup de fil ou un coup de fil publicitaire. Donc, si on donne ça aux gens, ils vont peut-être prendre l'application parce qu'ils ont ça en option gratos.
Voilà, c'était le petit truc bonus en plus.
Voilà. Donc, et puis en plus, on va le faire communautaire parce que comme on n'a pas tout, on va le faire communautaire. C'est sympa, c'est cool.
Et pour résumer,
c'est comme ça qu'on arrive à cybersécurité en fait aujourd'hui.
Et c'est comme ça qu'on arrive à cybersécurité. Donc, incroyable. D'un problème qui n'a rien à voir avec ça.
C'est génial.
Qui est comment je me bats contre Google qui veut enlever mes revenus du ce qu'on appelait ce qu'on a appelé en interne la guerre du bouton vert.
On arrive
à cybersécurité.
Voilà,
parce qu'il y a un gars sur le fin fond d'une salle qui a levé le doigt, qui a dit moi j'ai peut-être cette idée-là, ça pourrait peut-être aider. Oh bah oui, ça pourrait aider.
Allez, ça, c'est une première bonne leçon de comment est-ce qu'on arrive à cybersécurité aujourd'hui. La deuxième, c'est pourquoi lutter contre les usages quand ils essaient de s'installer, puisque 10 ans plus tard, a priori, j'ai pas besoin de Orange Téléphone, je vais directement sur WhatsApp.
Et ben voilà, c'est ça.
Et ben voilà.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci Marjorie.
Bah de rien, elle nous en prie.
Sur le plateau de Tech & Co, à très vite. Marjorie, journaliste, Yves Maître, Operating Partner, Jolt Capital et consultant, ancien PDG de HTC. Merci Fred. Fred Simotel, qu'on retrouve demain, qui sera la présentation de Tech & Co demain, bien évidemment. Et vous restez avec nous, on a encore une demi-heure à passer ensemble avec plein de choses passionnantes qui arrivent. Comment Air France embrasse l'intelligence artificielle générative? On va en parler dans un instant avec mon invité, porte-parole d'Air France justement sur ces sujets, l'IA et la data. Et puis juste après, autre belle boîte, c'est L'Oréal qui invente, écoutez bien, et ça a été présenté à Vivatech, c'est passionnant, une peau qui est imprimée en 3D pour faciliter en fait les tests de produits. Tout ça à découvrir dans quelques instants, juste après le Tech Flash de Léa Benaïm, bien sûr, qui me rejoint sur ce plateau. Merci d'être là, tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne Tech Flash.
Voilà, dans un instant sur ce plateau, Julie Pozzi nous rejoint, responsable data et IA chez Air France. Mais auparavant, 21h01, j'accueille Léa Benaïm pour le Tech Flash. En 3 minutes, ce qu'il faut retenir de l'actu tech de ce mercredi soir. Bonsoir Léa.
Bonsoir François et bonsoir à tous. Et pour commencer, une bonne nouvelle. Le vaisseau Starliner de Boeing a enfin décollé vers l'ISS. Une mission qui doit permettre d'ajouter un nouveau nom sur la courte liste des véhicules spatiaux transportant des êtres humains. Après des années de reports et deux tentatives de décollage annulées au dernier moment, Boeing doit maintenant démontrer que Starliner est sûr pour commencer ses opérations régulières. Avec toutefois 4 de retard sur SpaceX qui assure déjà les trajets vers l'ISS depuis 2020. Si votre site est hébergé par OVH Cloud, il est possible que vous rencontriez des problèmes. Des utilisateurs se plaignent depuis ce matin sur les réseaux sociaux d'une lenteur et de problèmes de connexion. Ces perturbations sont liées à une panne. Plusieurs serveurs sont concernés selon l'entreprise. L'incident serait lié à une opération de maintenance sur les sauvegardes des données. On vous parlait hier de cette appli Tenten qui cartonne chez les moins de 20 ans, une appli française. Les fondateurs ont été reçus aujourd'hui par la secrétaire d'État au numérique. Objectif, mise en garde et accompagnement, selon Marina Ferrari. Cette application est jugée trop intrusive. Elle transforme son smartphone en talkie-walkie, accusée d'augmenter le risque de harcèlement en ligne et d'intrusion dans la vie privée. Le gouvernement souhaite rappeler les règles aux fondateurs. L'application Gemini arrive en France. Elle était jusqu'à présent disponible qu'aux États-Unis. Sur Android, vous devez passer par le Google Play Store pour la télécharger. Et pour les propriétaires d'iPhone, pas d'accès direct sur l'App Store, il faut passer par l'appli Google où l'assistant IA est intégré. Et puis l'été arrive, un peu de lecture. Bill Gates se prépare à sortir ses mémoires, son nom, Code Source, Mes débuts, un livre qui commence à son enfance jusqu'à la création de Microsoft. C'était en 1975. Au-delà de ses épreuves personnelles, le livre retracera l'aventure de cette figure de la tech, comment il a fondé ce mastodonte qui est devenu Microsoft. Mais pas d'infos sur la situation actuelle de l'entreprise, de la fondation Gates ou encore de l'avenir de la technologie. Le mot IA n'est visiblement pas prononcé. Et puis rendez-vous demain sur la plateforme et la chaîne Tech & Co pour un nouvel épisode de multijoueur avec Melinda Davansoulas, et on parle du Summer Game Fest qui ouvre ses portes vendredi. Et je vous propose un extrait en exclusivité juste pour Tech & Co. On écoute.
E3, c'était quand même un peu ce qu'on appelait le Noël des gamers, donc c'était vraiment un moment de partage, un moment où on avait plein d'annonces de nouveaux jeux. C'est le moment où on rêvait en fait avec toutes les nouvelles annonces de jeux, et le Summer Game Fest, comme l'a dit Chris, jusqu'à présent c'est pas forcément la conférence qui nous faisait rêver. Il y avait beaucoup de hype pour pas grand chose au final. C'était très long, donc j'aimerais bien qu'on revienne un peu à cette E3 que Jeff Kelly justement essaye un peu de copier, hein, disons-le clairement.
Alors la différence entre, qu'on le dise aux gens, la différence entre l'E3 qui était donc conférence de d'annonce pré-événement, qui était 3 jours de rendez-vous pour les professionnels, pour la presse. À la fin, c'était un peu pour le public. C'est peut-être ça qui a coûté son existence à l'E3. Il n'y a pas du tout ça, là. Donc, nous, avec Chris, on va y être. On va avoir la chance de voir des jeux en avant-première, mais ce n'est plus du tout un événement public. Mmh.
Voilà, retrouvez Mélina Davansoulas dans Multijoueur dès demain, donc sur la plateforme Tech & Co, sur la chaîne Tech & Co et sur la chaîne YouTube aussi de Tech & Co. Il est 21h05, je vous présente tout de suite mon prochain invité.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et on va s'intéresser à la stratégie d'Air France dans l'intelligence artificielle avec Julie Pozzi qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Julie.
Bonsoir François.
Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable data et IA chez Air France. Voilà, Air France, la compagnie aérienne que l'on ne présente pas. 100 000 clients transportés chaque jour à bord de plus de 1000 vols. Imaginez déjà ce que ça représente en termes de logistique. Et puis, puisqu'on parle d'IA, de data finalement. Vous récoltez énormément de data et vous n'avez pas attendu l'arrivée de ChatGPT pour évidemment malaxer toutes ces informations, j'imagine. La data chez vous, enfin chez Air France, ça fait des années, peut-être même plusieurs dizaines d'années que vous servez de tout ça, non, j'imagine.
Alors effectivement, la data chez Air France et l'IA de manière générale, ce n'est pas nouveau. On a même une équipe de recherche opérationnelle donc qui faisait de l'IA sans Big Data depuis 1958.
Waouh.
Et depuis les années 2000, on stocke et on utilise de plus en plus de données. Et du coup, voilà, on utilise l'IA au quotidien dans diverses applications, que ce soit pour prédire le nombre de plateaux repas qu'il faut charger à bord, faire de l'éco-pilotage, optimiser les plannings de nos personnels navigants. Donc l'IA est utilisée par les personnels d'Air France au quotidien.
Et on ne parle même pas là, en fait, du cockpit. Alors vous l'avez abordé très légèrement, mais le cockpit et l'IA, j'imagine que c'est vraiment un laboratoire incroyable d'innovation technologique. Aussi.
Effectivement, et alors ça c'est vraiment des innovations qui sont portées par les constructeurs et
oui,
pas forcément
Airbus,
par
Boeing, etc.
Voilà, exactement. Par contre, nous, effectivement, on essaye de doter au maximum nos pilotes d'informations en temps réel pour vraiment améliorer leur prise de décision au quotidien. Donc il y a de la data en temps réel. Déjà en soi, ça c'est un vrai défi. Et puis de l'intelligence artificielle pour leur proposer des alternatives, par exemple de route ou des choses comme ça.
Oui, alors justement l'intelligence artificielle. Générative, parce que c'est vraiment le sujet actuel. Vous avez vu arriver ça quand ? Et est-ce que vous la testez, cette IA générative ?
Alors complètement. Je pense qu'on avait vraiment les bases solides pour pouvoir prendre cette accélération de l'IA générative dès le début. Mm-hmm. Donc on a commencé en début d'année dernière. On a démarré par mettre en place un ChatGPT interne à l'entreprise pour permettre à l'ensemble des collaborateurs de tester ces nouvelles technologies dans un environnement sécurisé.
Excusez-moi, je vous coupe. Quand vous dites ChatGPT, c'est vraiment ChatGPT ? C'est-à-dire que vous avez passé un partenariat avec OpenAI ou c'est un autre large language model ?
C'est un large language model qu'on fait tourner dans nos environnements sécurisés.
D'accord.
Pour permettre à l'ensemble des
mais rien à voir avec OpenAI.
Pas forcément. On teste plusieurs modèles, c'est notre intention.
Ok. Et alors, et justement, vite, quelques exemples de cette IA générative chez Air France.
Tout à fait. Alors, très vite, en fait, on s'est dit qu'on avait besoin, en fait, de mettre vraiment ces technologies au plus près des personnels Air France. Donc, on est en train de déployer deux outils en ce moment. Je vais vous parler de Pamélia. Pamélia, c'est un outil qu'on a mis à disposition de l'ensemble des personnels qui vous accueillent dans les aéroports et qui leur permet, sur leur iPad, de pouvoir utiliser ces technologies d'intelligence artificielle générative pour les aider en fait à trouver de l'information dans une masse de documentation qui est très conséquente. On ne s'imagine pas forcément, mais la réglementation où on trouve des informations du type quelles sont les règles pour les bagages hors format. Mmh.
Et puis comme tout ça est très réglementé,
exactement.
Donc, et d'un pays à l'autre, ça change.
S'empilent les unes sur les autres.
C'est ça, c'est ça.
Et donc, on a besoin de cette intelligence artificielle générative pour accélérer, finalement, l'accès à la bonne information et permettre, en fait, au personnel qui vous accueille dans les aéroports de vous répondre très facilement et même de pouvoir traduire la réponse dans 25 langues et donc de pouvoir répondre dans sa langue natale à un client qui n'est pas forcément français, anglais, etc.
Et ça veut dire que même, par exemple, la personne qui va accueillir le client qui ne parle pas chinois, par exemple, va pouvoir, je ne sais pas moi, avoir une voix synthétique qui va lui dicter la réponse, enfin qui va donner la réponse dans la langue de la personne. Comment vous imaginez tout ça ?
Exactement. Donc c'est une application qui est sur leur iPad aujourd'hui,
okay,
qui leur permet donc de poser une question, d'avoir une réponse, d'avoir surtout accès à l'endroit de la documentation auquel la réponse fait référence. Okay. Parce qu'il y a vraiment toujours ce besoin que l'agent puisse vérifier la réponse qu'il fournit au client. Et puis après, il y a le petit bouton pour traduire et puis pour pouvoir effectivement, en audio, avoir la réponse directement.
Ça marche ? C'est en une expérimentation aujourd'hui ? Vous en êtes où ?
On est en train de l'expérimenter à Roissy. Et on espère pouvoir l'utiliser pour les Jeux Olympiques, puisque, comme vous pouvez l'imaginer, on a des règles supplémentaires qui s'appliquent pour les Jeux Olympiques, donc ça va être très intéressant.
Sacré défi aussi pour la compagnie Air France, hein, les JO, j'imagine que ça doit être vraiment là une excitation à la fois, parce que c'est formidable hein, d'être un peu la compagnie française qui gère tout ça. Enfin, pas que vous, mais on va dire sur le sol français. Et puis voilà, toute la pression que ça représente, quoi. Parce que, évidemment, dans les aéroports, ça va être assez compliqué, je pense.
Ça va être compliqué, mais on s'y prépare depuis de longs mois et dans tous les secteurs de l'entreprise. Donc, on s'imagine évidemment à l'aéroport, on s'imagine aussi au cargo, parce qu'on apprend en fait à transporter des matériels de nos.
Et oui, bien sûr, des athlètes.
Des athlètes qui sont pas forcément des choses qu'on a l'habitude de transporter. Donc, on apprend à mettre des perches dans les avions, etc. Donc, voilà, tous les métiers se préparent, même l'informatique hein, qui doit faire au village olympique, en fait, on crée un espace pour vraiment accueillir les clients pour en fait même les faire l'enregistrement
des ah oui ils pourront s'enregistrer au village olympique au vraiment, lieu de faire à l'aéroport donc
voilà,
vraiment
toutes les équipes d'Air France se préparent tous ensemble pour faire de ce moment une belle fête
et vous serez prêts, j'en suis sûr. Alors Pamélia, ce qui est rigolo c'est que il y en a pas mal hein, de on va dire d'innovations liées à l'intelligence artificielle. Il y a Charlie, il y a Fox, il y a aussi Talia qui là est un on va dire un ChatGPT pour les salariés, c'est ça que vous faites, c'est celui dont vous nous parliez au départ, c'est ça ?
Oui, donc Talia, c'est vraiment notre LLM interne qui permet, en fait c'est comme un bac à sable pour expérimenter, imaginer des cas d'usage dans un environnement sécurisé, donc avec des données qui sont privées à Air France KLM.
Charlie, de quoi s'agit-il ?
Alors Charlie, vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Charlie. Charlie, en fait, c'est une application qui va être à disposition des mécaniciens qui interviennent sur nos avions. Vous avez peut-être vécu déjà l'expérience d'être à bord d'un avion, puis de voir un mécano qui arrive en tenue de travail, et là on se dit, oulala, c'est pas bon, on va prendre du retard. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Et en fait, il faut savoir qu'on a des mécaniciens qui interviennent du coup à bord des avions au moment de l'embarquement, donc ils sont, et ils doivent des fois réparer des éléments de la cabine, comme un rack à bagages par exemple. Et ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est qu'un rack à bagages, il y a des milliers de références en fait dans une cabine avion.
Mais oui.
Et que des fois, trouver cette information-là dans certains de nos avions peut prendre jusqu'à 30 minutes. Donc Charlie, où est Charlie, peut permettre à ces mécaniciens de trouver la référence beaucoup plus rapidement, en 2-3 minutes, faire la réparation et laisser l'avion partir à l'heure.
Donc grâce à l'IA générative, les avions seront encore plus à l'heure.
c'est notre espoir. Et c'est en ce sens-là qu'on travaille.
Écoutez, la prochaine fois qu'on aura quelques minutes de retard, on se dira, mais où est Charlie, finalement?
Exactement.
C'est ça. Parlez-nous de Fox aussi, je crois que c'est un outil intéressant qui fait appel aussi à l'IA.
Alors Fox, c'est l'analyse des verbatims de nos clients. À chaque fois que vous prenez un avion, vous avez l'opportunité de remplir un questionnaire de satisfaction en tant que client. Et on a évidemment des équipes dont c'est le travail d'aller analyser tous ces verbatims, toutes ces enquêtes pour en tirer évidemment des plans d'action pour améliorer l'expérience client. Et donc Fox est un outil qui va leur permettre de classifier automatiquement et d'interpréter les verbatims, faire une analyse de sentiment pour se rendre compte si un verbatim était plutôt positif ou négatif.
Donc c'est quand on reçoit les petits sondages à la fin, enfin quand on a pris un vol, on met des étoiles, on dit ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu. Donc là c'est l'IA qui va prendre tout ça, parce que j'imagine que vous devez en avoir beaucoup des retours, et vous faites quoi, une synthèse, c'est ça? Après,
alors, dans un premier temps, c'est une classification. Déjà pour savoir est-ce que c'est un verbatim qui est lié par exemple à la qualité de la nourriture ou qui est lié à la qualité de la cabine, aux échanges avec les équipages. Donc voilà, donc il y a une première classification qui est faite. Ensuite une analyse de sentiment, parce que dans un verbatim des fois on va avoir 3-4 phrases. Un passager a été content de ce que le pilote a pu dire au cours du trajet, mais mécontent du choix du repas. Enfin voilà, donc on trie effectivement et puis on analyse si c'est plutôt positif, plutôt négatif. Voilà, donc on commence par des choses comme ça, et puis on peut piloter du coup jour après jour comment évolue en fait l'expérience de nos clients.
Julie Pozzi, on est au début, j'imagine, de l'IA générative. Alors forcément, il y a des garde-fous, hein, surtout quand on est une compagnie aérienne avec autant de réglementations, autant de sécurisation, on va dire. Mais on est au début, à votre avis, est-ce que l'IA générative pourrait aller plus loin? Est-ce que vous travaillez déjà sur d'autres aspects d'IA générative chez Air France?
Alors pour moi, vraiment le défi qu'on a au sein d'une compagnie aérienne comme Air France autour de l'IA générative, c'est plus l'adoption des outils. La technologie en soi ne va plus être un souci, un problème. Donc ouais. D'un point de vue technologique,
c'est d'embarquer en fait les collaborateurs.
C'est d'embarquer les collaborateurs et surtout de bien faire comprendre à l'ensemble de nos collaborateurs que finalement, on ne peut pas prendre pour argent comptant ce qui sort de ces modèles et vraiment les habituer à challenger les réponses et à utiliser cet outil-là comme un outil supplémentaire d'aide à la décision, mais pas comme la vérité vraie.
D'accord. Et puis l'IA générative a ses limites. Hein. Aujourd'hui, quand on appelle un centre Air France, on a toujours un humain. Vous imaginez avoir des aides demain d'IA générative, par exemple, dans ces cas de figure?
Alors, on est en train de le tester également. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aura toujours des conseillers et que l'IA générative ne remplacera pas ces conseillers, mais va leur permettre d'être plus efficace, de répondre, de personnaliser plus leurs réponses aux clients, puisqu'elle va leur permettre effectivement de peut-être déjà faire une synthèse de tous les échanges qu'on a pu avoir un client avant que le conseiller prenne le dossier, va lui permettre aussi d'aller proposer une réponse à faire aux clients, etc., etc. Donc il y a toute cette aide finalement à la décision de
mais qui est pilotée par un humain.
Et qui est pilotée par un humain à la fin, systématiquement.
Voilà, car rappelons-le, l'IA générative, c'est bien, mais ce n'est qu'un outil qui accompagne l'humain. Merci beaucoup, Julie Pozzi.
Merci beaucoup.
Responsable data et IA chez Air France. Et bons Jeux Olympiques.
Merci à vous.
Et tout de suite, direction de la rédaction de Tech & Co, comme chaque soir.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Sylvain Trinel nous a rejoint. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir.
Il est venu avec son jet privé depuis le deuxième étage.
J'aimerais bien.
Hop là. Journaliste à Tech & Co. Et ce soir Sylvain, on part en direction l'Everest pour une première mondiale.
Une première mondiale, hein, direction la plus haute montagne du monde. Alors attention, pas pour parler de Inoxtag, hein, le youtubeur qui a réussi à la gravir il y a quelques jours, mais pour s'intéresser au chinois DJI. L'entreprise, elle avait annoncé en mai dernier sa volonté de se lancer dans la livraison par drone. Et c'est désormais une réalité. Seulement deux mois plus tard, puisqu'avec son Flycart 30, il a pu proposer une première mondiale, celle d'utiliser un tel appareil pour transporter des charges lourdes dans des conditions extrêmes. Alors, trois bouteilles d'oxygène, 1,5 kg de matériel ont pu être acheminés vers le camp 1 de l'Everest, situé à 5364 mètres, si mes notes sont exactes. Et mieux encore, il a même pu ramener des déchets avec lui lors de son voyage de retour.
Voilà, imaginez que ça remplace un hélico, hein, finalement.
Exactement.
Pour faire ça.
Un hélico qui ne peut pas atteindre. Hein,
c'est trop haut.
Exactement.
Il
n'y
a pas assez d'oxygène, je crois, avec les pales, donc n'arrive pas à monter si haut. C'est
tout
ça
à fait. Exactement.
Mais qu'espère DJI en se lançant dans ce type d'opération, en fait?
Alors, on sait, hein, DJI, c'est un leader sur ce marché, notamment chez les particuliers et les professionnels du cinéma. Oui. Le chinois, il veut montrer qu'il peut aussi être utile pour des missions importantes en haute montagne, avec des drones suffisamment solides, car c'est là toute la prouesse, a priori en tout cas, du Flycart 30. Il peut porter des charges lourdes, et ce, quelles que soient les conditions climatiques, même dans les endroits où l'oxygène se raréfie. Une aubaine et un moyen, évidemment, pour l'entreprise de devenir encore plus incontournable, à l'image de l'Avata 2, son dernier drone grand public, et dont vous pouvez retrouver le test sur Tekenco.
Ah bah, tu sais quoi, je l'ai testé Avata 2, je suis nul en pilotage de drone et je suis arrivé à faire des vidéos incroyables.
Et bah, moi aussi, pareil.
C'est dingue, hein.
Tout est possible.
Il y a tellement de technologies, c'est incroyable, hein.
Exactement.
C'est un bijou technologique, il y a tellement d'aide en fait au pilotage que même si vous êtes nul, vous arrivez à le faire piloter.
Quoi. Exactement.
Merci beaucoup Sylvain.
Merci.
Sylvain Trinel de la rédaction de Tech & Co. Et tout de suite, j'accueille mon dernier invité. On va parler de L'Oréal avec Anne Colonna qui nous rejoint.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Anne Colonna, bonsoir donc.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de la recherche avancée de L'Oréal. Pourquoi L'Oréal dans Tech & Co? Ben parce que L'Oréal, évidemment, au-delà du fait que c'est un géant de la cosmétique, le numéro un hein, mondial d'ailleurs dans ce domaine, embrasse la technologie, l'innovation depuis de très nombreuses années. Et là, on va s'intéresser à un exemple qui est passionnant, Anne, c'est la peau.
Tout à fait.
Parce que, évidemment, la peau, c'est...
Notre sujet d'étude, notre sujet organe d'étude. Préféré, tout à fait.
Et vous êtes arrivé, expliquez-nous, vous êtes arrivé à créer une peau artificielle sur laquelle vous pouvez faire des tests. C'est
complètement, ça ? Complètement. Alors, la peau artificielle, en fait, alors pourquoi L'Oréal travaille dans le domaine de la peau artificielle ? Vous l'avez dit, c'est notre sujet principal d'étude. Mais tout d'abord, parce qu'il y a plus de 30 ans, L'Oréal a stoppé tout test sur animaux. Donc, ce qui veut dire qu'on a dû, pour pouvoir
vous
innover...
Vous étiez d'ailleurs en avance rapport à la législation,
on était en avance, on a fait 14 ans avant l'arrivée de la réglementation. Et donc, pour pouvoir continuer à innover, pour pouvoir tester nos produits, on a anticipé et on a développé ce qu'on appelle une peau reconstruite, une peau artificielle. Donc, la peau artificielle, c'est quoi ? C'est à partir... d'une cellule de peau, on va mettre...
Une vraie cellule de peau.
Une vraie cellule de peau.
D'accord.
Qu'on met dans des conditions très particulières de température, d'humidité, qui vont reproduire le corps humain. Cette cellule va se développer, va créer des millions de cellules.
Dans une mini-serre de culture, en fait, c'est ça ?
Tout à fait, dans une mini-serre de culture. Et on va avoir une peau humaine qui va pousser. Et ça, on a réussi à le faire. Dès en 1979, on a réussi à faire notre première peau. Donc, ce qui nous permet donc de développer des produits, d'innover sans aucun test sur animaux.
Et aujourd'hui, cette peau, j'imagine, elle a évolué puisque maintenant, il y a l'impression 3D qui est passée par là.
Complètement. Complètement. Alors, c'est ce qu'on a présenté la semaine dernière à Vivatech. Donc, l'impression 3D et plus largement, c'est ce qu'on appelle la skin technology. La skin technology, c'est quoi ? C'est la version amplifiée par la technologie, par la science, de notre savoir-faire historique dans les peaux reconstruites. Et donc, en effet, on a une peau qui est bio-imprimée et qui va permettre, la bio-impression, ça va nous permettre de représenter toute la diversité, toute la variété des peaux. Vous avez une peau, j'ai une peau, on n'a pas les mêmes peaux. Et donc ça, c'est important qu'on réussisse à reproduire l'ensemble de ces peaux.
On appelle ça la pigmentation, non ? Enfin,
la pigmentation, alors.
C'est ça.
Tout à fait. Donc, grâce à cette bio-impression...
Vous allez pouvoir, en fait, reproduire tous les types de peaux.
On peut reproduire l'ensemble des types de peaux. Et pourquoi ? Parce que, alors, ce qu'il faut voir pour la bio-impression, vous imaginez, on travaille avec l'Université de l'Oregon sur ça. Donc, vous imaginez... Une imprimante 3D.
D'accord.
Et dedans, grâce à de la mécanique de précision, grâce à de l'électronique, on va pouvoir vraiment déposer très précisément toutes les cellules, une diversité de cellules de peau pour reproduire l'ensemble des peaux possibles.
On voit les images qui sont derrière vous, super, qui sont super, impressionnantes. On voit, super. Voilà, c'est cette impression 3D, voilà, qui est en train de créer de la peau. Mais ça va plus vite que, on va dire, l'ancienne méthode qui était la culture dans notre petite serre qu'on évoquait tout à l'heure.
Alors, ça va plus vite, oui et non, puisque la peau doit repousser, donc c'est physiologique, il faut 3 semaines pour qu'une peau pousse. Par contre, on va être beaucoup plus large en termes de diversité.
Oui, c'est ça, d'accord.
Et quelque chose qui est magique aussi, quand vous parliez de pigmentation, moi je suis ébahie à chaque fois que je vois ça, c'est ces peaux, vous les mettez au soleil, elles vont bronzer. Elles peuvent attraper des coups de soleil.
Donc elles ont les mêmes caractéristiques qu'une peau vivante.
Tout à fait, elles cicatrisent.
Incroyable.
Vous pouvez faire des peaux qui ont de l'acné, des peaux qui ont de l'eczéma.
C'est fou parce que finalement, ça peut avoir même des débouchés médicaux, des débouchés dans le domaine de la médecine qui sont incroyables.
Tout à fait, tout à fait. Et en fait, donc, ça a des débouchés énormes, que ce soit alors, dans le domaine de la cosmétique ou dans le domaine médical. Dans le domaine de la cosmétique, ça nous offre un terrain de jeu, mais énorme pour servir les besoins de l'ensemble de nos consommateurs et la diversité vraiment pour permettre une personnalisation. Que ce soit, par exemple, dans le domaine de la photoprotection, dans le domaine de la protection solaire.
Oui. Qui est un vrai sujet aujourd'hui. Hein.
Qui est un vrai, vrai, vrai sujet de santé publique. On a encore 80 000 cancers de la peau par an. Le chiffre qui a plus que triplé en 30 ans. Donc, c'est un vrai, vrai sujet de santé publique.
Bon, en ce moment, à Paris, on n'a pas ce problème. Hein. Ça, c'est
aujourd'hui,
cool.
Aujourd'hui, ça commence. Aujourd'hui, ça commence.
C'est vrai. Mais là, les dernières semaines, on ne prenait pas beaucoup de coups de soleil. Ouais. Mais bon.
Et dans le médical, du coup, donc, on partage ces technologies avec le monde médical. Et en particulier, ce que vous pouvez imaginer là sur le bioprinting, c'est par exemple pour les greffes de peau. On avait travaillé déjà en 2004 avec des grands brûlés, avec des hôpitaux dans les grands brûlés, l'hôpital de Percy, sur des greffes de peau. Là, imaginez, avec l'ultra-personnalisation qu'on peut avoir, on peut envisager donc, des greffes de peau où on va pouvoir diminuer le taux de rejet. On peut imaginer dans le futur de directement bioprinter la peau directement sur les personnes.
C'est incroyable. Mais là, ça dépasse même pas vos compétences, mais votre domaine d'activité. Parce que vous êtes pas dans la santé. Demain, vous pourriez imaginer faire un spin-off et bosser pour bosser dans la santé, carrément.
Alors, nous,
dans le médical.
Toutes nos applications avec les peaux reconstruites, c'est vraiment dans le domaine des cosmétiques.
Oui,
par exemple,
c'est pour tester en fait les produits.
Pour tester, pour innover. Par exemple, l'an dernier, grâce à ces peaux reconstruites, on a développé un nouveau filtre solaire UV1400. Donc, on continue à innover. Donc, c'est à la fois D'accord. pour innover et pour tester nos produits. Et dans le domaine médical, par contre, ça, on met à disposition aux chercheurs du monde médical pour qu'ils puissent avancer dans leurs recherches. Mais donc, c'est plus là, on fournit les peaux qu'on a pu développer.
Incroyable, c'est passionnant tout ça. Est-ce que ça va changer peut-être la composition de certains produits que vous fabriquez justement ? Vous parliez tout à l'heure de cette peau qui vit, mais est-ce que par exemple elle peut avoir des réactions allergiques aussi sur certains produits aussi ou pas ? Ça va jusque-là ?
Alors on peut maintenant, grâce en plus avec ces technologies et l'évolution de la technologie, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Mmh. Pour vous dire ce sur quoi on travaille aujourd'hui, on travaille avec des peaux qui ont des cheveux qui poussent.
D'accord.
On travaille pour mettre, on met aussi d'autres cellules pour reproduire tout. Quand vous touchez quelque chose, votre peau a une sensorialité. Donc okay. On reproduit pour avoir des peaux qui peuvent toucher.
D'accord,
Pour avoir le sens du toucher.
Incroyable.
Donc on évolue et donc ça c'est ce qu'on fait. C'est pas de la science-fiction, hein. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Puis avec toute l'évolution de la technologie qui est en train d'exploser aujourd'hui, on peut imaginer encore beaucoup d'innovations.
Ouais, j'imagine évidemment dans le monde de la cosmétique, mais aussi dans le monde médical. Et vous le disiez, c'est bien que vous partagiez toutes vos trouvailles avec les médecins, les chercheurs et les universités. Merci beaucoup Anne Colonna. Je retiens quand même que vous êtes en train de mettre en place une peau avec des cheveux dessus. Si vous en avez en plus, moi je veux bien. Hein, quand ça sera prêt, on sera quelques-uns peut-être à y adhérer. Merci beaucoup.
Merci.
Vous êtes directrice générale de la recherche avancée de L'Oréal. Pour terminer ce Tech & Co en ce mercredi soir, c'était un vrai plaisir que de passer encore une fois 7h30 en votre compagnie. Demain, aux commandes, Frédéric Simotel. Très belle soirée et j'aurai le plaisir de vous retrouver bien sûr lundi prochain avec la grande soirée WWDC à suivre en direct sur BFM Business. Ça sera la conférence Apple avec beaucoup d'annonces liées à l'intelligence artificielle. Et le lendemain, semaine chargée, hein, puisque le 11 juin, ce sera notre nuit LIA, une nouvelle nuit LIA qu'on est en train de vous préparer avec des sujets passionnants. On va parler robotique, on va parler santé justement, mais aussi divertissement et même de l'intelligence artificielle au bureau avec des invités prestigieux, dont Luc Julia qui sera avec nous. Très belle soirée donc et à la semaine prochaine. Salut à tous.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.